Analysez, décodez. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonine Iaccarini, tu vas faire face à ton plus grand défi en carrière.
Oui.
Il reste 1 minute 12 en deuxième période. Avantage numérique Canada, c'est 2-2. Et là, il faut que moi et Mathias, on soit concentrés à t'écouter.
Bien, c'est ça. Si on était à une autre époque, on pourrait juste mettre une toune puis écouter le match.
Exactement.
Mais là, on est rendu
100% parler à Boulevard 102.
Mais je tiens à dire, c'est important de ma part que je me concentre aussi sur la partie pour
oui,
pouvoir
parce que là,
faire vivre des émotions
aux
auditeurs.
Si y a un but, c'est toi qui crie. Moi, je me concentre sur Manto. Pour être sûr de voir le début de l'avantage numérique, par exemple, j'ai un extrait d'Antoine Robitaille.
Il est-tu bien, bien long?
51 secondes. Ça va être à peu près la fin de la période. Concernant ce qui se passe justement, la nouvelle que Mathias vient de nous lire, ce qui se passe à Québec solidaire avec Alexandre Boulris.
Et il y a juste un petit problème, c'est que dans deux conseils généraux, les membres militants de QS ont décidé qu'il y aurait désormais, dans les circonscriptions dites gagnées actuellement, donc dans les Châteauforts, qui sont délaissés par leurs élus, là, donc Sherbrooke, Rosemont, Maurice-Richard, Sainte-Marie-Saint-Jacques et Gouin, ben là, qu'il y aurait des femmes ou des non-binaires en priorité. Alors, si M. Boulris veut aller dans Gouin, puisqu'il est implanté dans ce comté-là depuis longtemps, ben il faut une exception à cette règle-là qui a été adoptée.
Attends, il y a un problème pour que Boulris se présente dans Gouin parce qu'il n'y a pas le bon sexe ou le bon genre?
Oui, c'est ça. Il y a un problème de genre.
Un problème de genre.
Un genre de problème.
J'adore.
Écoute, c'est tellement
ça
fou.
Fait pas de sens, là.
Ben, cette règle-là, moi, je me rappelle, quand QS l'avait adoptée, je me suis dit, mais quelle erreur à de nombreux degrés. Premièrement, c'est sexiste.
Okay? Ben oui.
Puis là, c'est un tabou, le sexisme anti-homme, là. Mais je veux dire...
Mais c'est sexiste. Du sexiste, bon. C'est du sexiste, peu importe le sexe.
Ça veut dire que tu peux pas être candidat si t'as pas le sexe requis.
C'est ça.
Donc, c'est du sexisme. Et deuxièmement, pense-y deux secondes. Ce qu'Antoine Robitaille et Emmanuel Latraverse discutaient il y a un instant, c'est ça. C'est que t'as un bon candidat. C'est un homme. Ça donne le pauvre, là. Il est taré, là. Il a la tare d'être un homme, là.
Ah oui. Et un là, homme blanc, en plus, plein de confiance.
En plus, rempli de confiance en lui. Et il est implanté là. C'est un super bon candidat, mais tu peux pas parce qu'on a décidé que c'était un comté réservé à des non-hommes. Donc, déjà, c'est fou et c'est pas stratégique. Tu te laisses pas de flexibilité pour avoir des bons candidats, peu importe. Mais la deuxième raison, c'est que ça t'oblige à identifier ce qui est un comté prenable ou non. Et quand tu es un parti politique, tu ne veux jamais faire ça.
Okay? Ben
à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, les partis disent c'est quoi vos comtés. Les médias nous demandent à des partis c'est quoi vos comtés cibles. Combien vous en voulez. Puis jamais on répond à ça. Comment démotiver tes candidats dans les comtés considérés à l'interne comme non prenables?
Ben exactement. Puis aussi, tu sais, comment soulever l'ire peut-être un peu aussi des gens dans ce comté-là. Ah ouais, tu me prends pour acquis, toi?
Ben tu me prends pour acquis. Donc là, une fois que t'as décidé que les comtés prenables étaient réservés à des non-hommes. Donc, tu réserves des comtés pas prenables en disant, oui, les hommes, vous pouvez vous présenter dans les comtés pas prenables. Hey, c'est motivant sur un moyen
ben,
temps.
Ça motive personne à l'interne. Ça motive personne à se présenter comme candidat. Puis moi, là, pour montrer à quel point ça n'a pas de sens, ce qui a été voté, je vais te faire un comparatif. Non, c'est quand qu'on est dans l'entre-période. Là, je peux être Dieu à Dieu avec toi, Antonine.
Jeff est tellement focus présentement.
Yes. Pour te montrer à quel point c'est ridicule. Imagine ce que QS dirait si le Parti conservateur du Canada disait « Hey, savez-vous quoi? Les comptes en Alberta, ça, c'est notre château fort. Des hommes blancs. Pas juste des hommes blancs, des vrais rednecks. »
Ben non, ils feraient pas ça, mais...
Non,
moi,
mais tu comprends.
Moi,
là, QS déchirerait sa chemise.
Ben,
il dirait ça n'a pas d'allure.
Ben, moi aussi, je déchirerais ma chemise.
Ben, moi aussi, je déchirerais ma chemise.
Il n'y a pas d'obstacle en ce moment à ce que des hommes blancs aient des bons comtés. Okay, on va se le dire. Là. C'est vrai qu'il y a des obstacles à certains groupes de la société qui sont moins représentés en politique. Mm-hmm. Moi, je suis pour ça, là, mettre des choses en place
ben,
pour
oui.
avoir une parité puis une meilleure représentativité.
Moi aussi.
Mais la manière dont s'y prend Québec solidaire, c'est juste fou.
Ben, c'est parce que c'est en excluant les autres.
Ben, c'est que tu exclus après ça, ça polarise énormément. Il y a moyen de s'organiser pour avoir des bonnes candidatures féminines, masculines ou non binaires. Mm-hmm. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sans dire c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est tellement pas stratégique et c'est tellement représentatif du manque de pragmatisme de ce parti-là qui veut avoir raison et non gagner. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir Guillaume Boivin. C'est un ancien conseiller politique qui a écrit une lettre ouverte dans Le Devoir très intéressante et qui invite les membres de et les militants de Québec solidaire à choisir est-ce qu'ils veulent être un parti qui peut gagner ou pas. Donc, on en reparlera tantôt. Moi, je pense que c'est très clair que QS, en ce moment, ne choisit pas ses combats. On a raison. Et ça crée toutes sortes... En fait, il se tire dans le pied.
Ben
c'est ça
oui.
qui se passe. Donc, pour Alexandre Boulris, là, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on nous annonce qu'on va faire une exception.
Ouais.
Donc, non seulement ta règle est niaiseuse, excuse-moi, mais en plus, tu peux la contourner comme tu veux.
Ben oui, pourquoi? Ben là, c'est parce qu'Alexandre Boulris, on s'entend, c'est un député présentement élu du NPD. Depuis 2011, c'est une figure connue. Que là, ça n'a plus d'importance, que ce soit pas une femme ou qu'il soit pas non-binaire.
Donc, ça, c'est réservé pour des femmes, sauf si un homme blanc, populaire, connu veut y aller.
Ben là, Ruba Gazal a de refuser de confirmer que c'était spécifiquement pour Alexandre Boulris l'exception. Fait que on peut lui donner bénéfice du doute. Hein?
Mon Dieu, mais quel
parfait, je vais
quel
écrire à Ruba Gazal et je vais lui dire, savez-vous quoi, Mme Gazal, je vais être à votre conseil général en fin de semaine.
Tu vas prendre ta carte de membre?
Et je vais me présenter dans Gouin. Ben, est-ce qu'on fait l'exception?
Dans Gouin, je ne suis pas sûre que ça va marcher, Jeff.
Ça ne marchera pas.
Parce que tu n'es pas implanté là.
Oui, exactement.
Mais à Québec, par contre. Mais y a, je ne sais pas s'il y a des comtés prenables en ce moment à Québec qui sont disponibles.
D'après moi, Tachereau va repasser au PQ. Le comté de Solzanetti, mais ce n'est pas un château fort. Il n'y a rien à Québec qui est un château fort QS. Ça, c'est certain.
Mais j'aimerais quand même saluer le courage d'Alexandre Boulris qui s'en va d'un parti en perdition vers un autre parti qui va pas très bien. Je vais pas dire en perdition parce que je trouve même que la situation de Québec solidaire est plus... des perspectives plus positives que le NPD au Québec. Peut-être qu'il pense qu'il est capable, lui, de réformer aussi ce parti-là et de le rendre plus pragmatique. Mais on s'entend que GND s'est quand même cassé le nez sur la porte pas mal fort.
Mais tu considères que c'est du courage puis pas juste quelqu'un qui essaye de fuir le bateau du NPD qui s'en va en coulant puis solide à part de ça?
Il y a des bateaux de sauvetage plus rassurants que QS.
Oui,
moi,
c'est
je vois
vrai.
Un certain courage. Honnêtement, si c'est ses convictions à lui, ses valeurs, et qu'il décide qu'il veut faire le saut vers la politique provinciale, et que c'est Québec solidaire qui a le programme qui répond le plus à ses valeurs. Moi, je salue le non-opportunisme. Parce qu'en ce moment, Québec solidaire, honnêtement, c'est pas évident. C'est sûr qu'il est dans un bon comté. La preuve, on voulait le réserver pour une femme. Donc, ça doit être un bon comté.
Oui. Mais tu sais, je vais être plate deux secondes. Mais t'sais, oui, courage, mais en même temps, il va partir avec sa pension du fédéral.
Ah, oh, t'es plate.
Puis là, ben, il s'en vient à QS où le bateau coule, puis il rêve d'être un chef.
Ben justement, avec ta pension fédérale, t'es pas obligé d'aller te faire suer à continuer à faire de la politique dans un parti que ça a pas l'air trop facile à gouverner.
Que là, ça va chicaner en fin de semaine. Là, parce que les féministes, le regroupement de féministes du côté de QS vont être contre.
J'imagine.
Le regroupement de souverainistes va être contre parce que Boulris, il a déjà scratché un souverainiste du NPD.
Effectivement.
Mais là, il se dit souverainiste. Mais les souverainistes le croient pas.
Écoute, il a le goût de se donner du trouble.
Ben c'est ça, par exemple. Ça, c'est vrai. Il est courageux. Il a le goût de se donner du trouble.
Il y aurait des options. Excuse-moi, mais tu sais, il pourrait devenir commentateur d'un média puis faire une très belle vie aussi, mais il peut continuer de servir le public. Donc, moi, je salue ça, oui.
Mm-hmm. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, Anto, mettons, la porte qui est là dans le studio, ça, nous autres, le studio, on est le Parti conservateur. OK? Ah. C'est la chambre du Parti conservateur du Canada.
OK.
Et là, moi, je t'imite Matt Généroux.
Hey!
Jeff est parti.
Je vais aller voir le Parti libéral! Salut,
gars!
Bye, Jeff!
Hey, salut, Jeff!
C'est ça qui vient d'arriver, dans le fond.
Ben, Généroux, il était censé partir complètement. Puis là, soudainement, il a parlé à Mark Carney, puis il a dit « Mark, moi pis toi. »
Bon. Ce qui s'est passé avec Matt Généroux au moment où il a démissionné, il était censé traverser la Chambre.
Oui.
Mais ça a tellement brassé avec les conservateurs et il y avait même des rumeurs d'intimidation.
Parce que c'était directement après crise d'Entremont.
Oui. Que finalement, il a annoncé qu'il quittait. Donc, c'est comme s'il avait semi-choqué. en bon français. Mm-hmm. Sauf que là, les mois ont passé et visiblement, les négociations se sont poursuivies avec le Parti libéral du Canada. Et on voit que M. Carney se rapproche d'une majorité. Bon, là, vous allez vous dire, écoutez, il me semble que ça fait beaucoup de gens qui traversent puis il n'est toujours pas majoritaire. Là. Il y en a eu quelques-uns. C'est parce qu'il en a perdu aussi, M. Carney. Fait que c'est comme un petit tango. Là. C'est avance-recule vers la majorité. Mais si M. Carney devait gagner les partiels qui vont avoir lieu dans les prochains mois, en plus des transfuges qu'il y a, il s'en va vers une majorité. Là. Parce qu'il y avait pas mal de monde qui pensait qu'il y aurait des élections au printemps, puisque les sondages sont assez favorables. Puis quand tu as une minorité puis que tu as des bons sondages, souvent ce que tu vas faire, c'est que tu vas remettre tout au jeu pour essayer d'aller chercher ta majorité. Mais à force de grappiller un député à la fois, M. Carney pourrait se retrouver avec sa majorité. Et j'ajoute là-dedans, on vient de parler d'Alexandre Boulris, la circonscription de M. Boulris. Le NPD la garde juste parce que c'est Alexandre
Boulris. Ben oui, c'est ça. Ben, sinon, on l'aurait passé aux mains des libéraux dans la dernière élection.
Là, ils vont essayer de présenter probablement la conjointe d'Amir Kadir là, qui se présente à chaque année aux élections fédérales. Tu sais, une très bonne candidate.
Oui, ouais, mais tu sais, une candidate brûlée aussi en même temps.
Ben, le NPD est brûlé au Québec.
C'est ça.
NPD est brûlé coast to coast, là, à peu près, au Québec, il est complètement absent.
Ouais,
c'est
pas un parti qui était, le NPD existait au Québec parce qu'on a trippé sur Jack Layton.
C'est ça. Donc, les libéraux sont en très bonne position pour le gagner. Il faudra voir. Là, je ne veux pas dire que les autres partis ne peuvent pas l'emporter. Ça dépend des candidats, ça dépend de plein de choses. Mais ça fait quand même plusieurs circonscriptions que M. Carney peut aller rechercher. Et Terrebonne, c'est un cas particulier. Parce que dans Terrebonne, on sait que la Cour a annulé l'élection. On doit recommencer l'élection. Et le bloc est à égalité présentement, si on regarde les projections de sièges de Canada 338, est à peu près à égalité. Mais dans les faits, M. Carney, les sondages sont très favorables au Québec, très populaires.
Exactement.
Donc, est-ce que le bloc va vraiment réussir son pari? Donc, réussir à annuler l'élection, refaire une élection dans Terrebonne, mais sans la garantie d'être capable de le gagner, finalement.
Je serais porté à dire que ça ne fonctionnera pas du côté du Bloc québécois parce que, d'autant plus qu'on continue cette guerre-là avec les États-Unis, puis j'ai critiqué Mark Carney pour des non-décisions, mais là, le plan avance vraiment bien avec des ententes économiques un peu partout dans le monde, que ce soit la Chine ou l'Europe. Donc, tu es un citoyen de Terrebonne, puis tu te dis « Ouais, à ta minute, là. » J'ai des bonnes chances que je vote
temps,
libéral.
Terrebonne, ça a été bloquiste pendant longtemps. Donc, le bloc
puis
est bien implanté.
Puis le PQ a été élu de façon très importante dans l'élection partielle.
Bleu. C'est très bleu. C'est très bleu, on va dire ça comme ça. Même turquoise, des fois, selon le palier de gouvernement. Donc, ça va être quand même enlevant là, comme élection partielle. Et les enjeux sont énormes pour les deux partis. Parce que, bon, Carney, lui, c'est sa majorité qui essaie d'aller chercher. Donc, quand même pas inintéressant quand tu réussis à aller chercher dans le cadre d'élections partielles comme celle-là. Et du côté du Bloc, ça enverrait tellement un mauvais message de perdre Terrebonne. Donc, tu vas avoir vraiment deux équipes hyper motivées, hyper mobilisées qui vont mettre la gomme. Et hier, Mike Carney était à Terrebonne. Tu sais, il vient pas souvent au Québec, là, on va dire la vérité. La dernière fois qu'il est venu, c'était pour nous dire que la guerre de conquête, c'était une épluchette de blé d'Inde puis que tout allait bien. Ben là, il est revenu au Québec et c'était pour aller appuyer là, sa candidate dans Terrebonne. Il a fait une tournée, il a rencontré le maire, etc. Est-ce que Yves-François Blanchet est aussi populaire en ce moment sur le terrain que M. Carney? Je suis obligée de dire que je pense que non.
Puis là, on voit des libéraux qui pourraient gagner ces partiels-là. Du côté du Parti conservateur, c'est quoi qu'on se dit? Parce qu'on n'est pas nécessairement en hausse de popularité non plus dans les sondages.
Surtout M. Poilievre.
Ben c'est ça. Fait qu'on veut-tu essayer de forcer une élection dès le printemps pour dire « Hey, on va essayer de renverser à vapeur pour pas qu'ils prennent une majorité? » Mais en même temps, on sait qu'ils gagneraient probablement la majorité à des élections générales de toute façon.
Oui. M. Poilievre a juste des mauvaises options devant lui. Parce que partir en élection sans garantie de gagner, c'est pas très intéressant. Sauf qu'il voit bien que M. Carney se dirige vers une majorité. Et si M. Carney réussit à avoir sa majorité, ça devient vraiment plus compliqué pour M. Poilievre. Parce que les sondages sont pas très favorables. Au Québec, M. Poilievre, ça ne passe pas beaucoup.
Oh, tu sais, on reste toujours entre 22-22%.
Il est polarisant au Québec.
Oui.
Et pourtant, c'est pas parce qu'il fait pas d'efforts. Parce que je salue l'engagement de M. Poilievre au
clairement.
Québec. Il vient souvent, il connaît bien le Québec. Dans la campagne électorale, il a fait des promesses qui étaient la liste d'épicerie du gouvernement du Québec, même sur des enjeux sur lesquels le Parti conservateur n'a pas toujours été chouchou à l'idée.
Ben, rappelons-nous que François Legault a déjà dit « voter conservateur ».
Oui, bon, ça, c'était
une erreur stratégique de François Legault.
C'était super. Mais le Parti conservateur, les questions de laïcité, par exemple, ils sont pas laïcs, pas en tout. Là. Si tu allez voir le Twitter de Pierre Poilievre, là, il salue toutes les petites fêtes religieuses. Aujourd'hui, c'est le Ramadan qui commence. Mm-hmm. On souhaite un bon Ramadan à tout le monde qui le font. Mais M. Poilievre est tout le temps dans le clientélisme religieux aussi.
Oui.
De dire qu'on allait laisser le Québec faire ses propres lois en matière de laïcité, ça brasse quand même à l'interne quand un parti fédéral dit ça. Puis pourtant, il avait mis ça dans sa liste de promesses. Donc, il a fait des efforts quand même substantiels pour pogner au Québec. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas de croissance du Parti conservateur au Québec. C'est les mêmes députés qui se font élire encore et encore, capables d'aller chercher un petit député de plus par-ci, par-là, des fois. Donc, c'est très difficile. Et du côté plus national, pour Pierre Poilievre, oui, il a passé son vote de confiance. Mais on est dans un contexte où, ben, premièrement, il n'a pas trop mal fait en campagne électorale. Les résultats ne sont pas si mauvais. Hein.
Ben alors, en termes de pourcentage de vote, c'est le meilleur pourcentage de vote
que
le Parti conservateur du Canada est allé chercher.
Puis tout le monde comprend que, je veux dire, le contexte international, ce n'est pas de la faute à Pierre Poilievre s'il a changé dramatiquement puis qu'il a changé d'adversaire du jour au lendemain. Donc, il y avait de la tolérance pour avoir perdu l'élection, parce que souvent, les chefs qui perdent une élection perdent leur place. Mais maintenant qu'on tomberait en mode majoritaire, ça donne plus de temps pour se dire « Est-ce qu'on a vraiment le meilleur chef pour la prochaine campagne électorale? » Quand on est en minoritaire, tu dis « Là, j'ai un pilote qui n'est pas pire. Il n'est pas super populaire, mais on va le garder parce que là, on peut partir en élection n'importe quand. » Mais si l'élection est dans 3 ans et demi...
Ben là, tu as le temps de te rebâtir.
Là, tout à coup, tu peux avoir de l'imagination là, pour imaginer le chef idéal.
Y a-tu de la relève, par exemple, au Parti conservateur du Canada?
Écoute, non.
C'est ça, hein?
Parce que c'est... Il n'y a pas de nom qui apparaissent là, comme étant le successeur naturel en ce moment.
Puis avant Poilievre, on critique Poilievre, mais avant lui, c'était Andrew Scheer puis Erin O'Toole. On s'entend, c'est le moins pire des trois.
Ben c'est ça. Ouais. C'est pas évident qu'il y a quelqu'un qui va apparaître puis être le prochain chef.
Les Mulroney?
Bien, là, c'est ça, c'est l'autre affaire. C'est que t'as un peu deux mouvances au sein de ce parti-là. T'as la mouvance plus parti conservateur, plus populiste, progressif conservateur, reform un peu. Mm-hmm. Et de l'autre côté, t'as les vieux Tories, donc les conservateurs plus classiques, donc des Mulroney, des Jean Charest, par exemple. Un Doug Ford,
justement, Serge qui vient d'écrire par texto « Doug Ford au Canada ».
Oui, mais Doug Ford, c'est plus les... Tu sais, il est très proche de Carney en ce moment et ce serait plus de l'autre mouvance. Le Parti conservateur d'aujourd'hui est beaucoup plus proche maintenant de ce Parti conservateur plus populiste, plus reform. Donc, c'est pas si évident que quelqu'un qui arrive de l'autre mouvance serait capable de reprendre le parti si facilement que ça. Ouais. Donc, pour l'instant, moi, j'ai bien de la difficulté à vous dire, là, les deux noms là, qui circuleraient, ce seraient ceux-là. Je n'ai aucune idée. Et M. Poilievre n'a pas mis beaucoup son équipe de l'avant dans les dernières années. Même en campagne électorale, là, c'était un one-man show. Là.
Ben, en effet, parce que je suis pas capable de te nommer beaucoup de députés du Parti conservateur du Canada.
T'sais, on connaît nos députés ici au Québec.
Ben, Pierre Poilievre, Gérard Deltel,
c'est ça, ils viennent nous voir. Là,
Dominique Anglade, Dominique Vien, je suis en train de faire...
C'est pas la même personne. On les connaît, mais tu sais, quand venait le temps d'essayer d'imaginer un conseil des ministres de Pierre Poilievre, on avait de la difficulté parce que c'est beaucoup un one-man show, ce parti-là. Donc, c'est pas évident de voir la suite des choses, mais il doit être inquiet, M. Poilievre, quand même, de voir que M. Carney se rapproche de sa majorité à force d'aller chercher comme ça des députés.
On termine avec l'entrevue qu'on a fait avec Bernard Drainville ce matin dans Marceau le matin. Marceau le matin qui est de 6h à 10h. C'est disponible l'entrevue sur le blvd.fm. Premièrement, Bernard Drainville qui défend son lien central.
Et puis, moi, je vous dis que le projet actuellement qui est sur la table, c'est peut-être pas le projet dont rêvent les gens, mais c'est un projet qu'on est capable de se payer. Puis c'est un projet qui est en marche. Moi, ce que je dis, c'est qu'avec les conditions qu'elle a mises sur la table hier, dans les faits, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis fin au projet du troisième lien. On a beau enrober ça dans ce qu'on voudra, c'est ça la réalité.
Hey, c'est pas grave, on fait un mauvais projet à 10 milliards. Tu sais, 418-971-1021, ce matin, vous étiez plein à dire « ça n'a pas d'allure, le corridor central ». Êtes-vous le même crowd ce midi? 418-971-1021, voulez-vous du corridor central, oui ou non?
Bien, c'est ça. C'est qu'on a l'impression, puis il n'y a pas tort non plus, là, M. Drainville. Puis hier, on avait Mme Fréchette en entrevue, puis on lui a posé la question. Une fois qu'on met toutes les conditions de la phase 1 puis de la phase 2 en branle, il n'y en aura pas de troisième lien, on est d'accord. Là,
ben non.
Donc, est-ce qu'on va, en fait, toute vapeur vers un projet dont personne ne veut vraiment? ou est-ce qu'on remet encore énormément au calendrier grec? C'est un peu les choix qui sont offerts présentement aux membres de la CAQ, parce que je rappelle, là, ces candidats-là, ils parlent aux membres de la CAQ pour l'instant. Et s'il y a des gens qui veulent absolument se positionner sur la question de troisième lien, ils peuvent prendre leur carte de membre. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Là. C'est qu'à peu près 15 000 membres de la CAQ, puis ils vont peut-être même pas tous voter, vont décider du sort du troisième lien.
Tu m'ouvres une porte là-dessus. Bernard Drainville est venu une fois en studio en entrevue à On en jase. Il est venu ce matin. À chaque fois, il termine en disant « Hey, que tu soyez caquiste ou pas trop, c'est pas grave, 15$, prenez votre carte. » J'ai de la misère avec ça.
Pourquoi?
Ben, j'ai de la misère avec le fait que tu dises à des gens qui croient pas à la CAQ « Viens, mets-toi membre de la CAQ, puis vote pour moi, je vais être le chef de la CAQ. »
Mais surtout, c'est qu'on ne le sait pas encore, ça va être quoi la CAQ, parce que la CAQ de Fréchette, ce ne sera peut-être pas la CAQ de Drainville et vice-versa. Mais je me disais, moi, hier, quand j'ai vu les réactions à la suite de l'annonce de Fréchette, parce que quand même, les réactions ont été assez positives dans un dossier qui est, disons-le, pourri de bord en bord. Madame Fréchette, peu importe ce qu'elle allait annoncer, je regardais la une du Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec, pardon, c'était une septième version du troisième lien pour la CAQ, puis je sais pas, mais on tournait tout ça en ridicule.
Ben oui.
C'est sûr, elle peut pas effacer ce qui s'est passé, Mme Fréchette, puis M. Drainville non plus. Cela dit, les réactions ont quand même été positives. J'ai vu le maire de Québec, sa réaction était correcte.
Ouais.
Du côté de Lévis, la réaction de M. Blainey était bien correcte aussi. Il y avait de l'ouverture pour ce que Mme Fréchette disait. On a reçu la PDG de la Chambre de commerce de Lévis aussi, puis il y avait une préférence aussi pour le tracé de Mme Fréchette. Donc, je me disais, mon Dieu, pauvre M. Drainville, ça doit être difficile, puis surtout qu'il y avait Martine Biron aussi, sa voisine de circonscription, qui était à l'annonce de Mme Fréchette. Puis, je parlais avec mon chum. Il n'aime pas ça, mon chum, quand je le cite en nom, mais tant pis. Puis, il me dit, tu sais, si j'étais Bernard Drainville, je me mettrais là, dans le trafic. Là. Puis là j'aurais des codes QR. Là. Je dirais, voulez-vous un troisième lien? Puis là, les gens pourraient genre prendre leur téléphone puis cliquer sur le code QR, puis ça amènerait directement à la carte de membre. Ça dirait, votez Drainville.
Oui, mais comme je viens de te dire, moi, j'aime pas cette stratégie-là de dire, je vais remporter la chefferie d'un parti politique avec des outsiders du parti politique.
Et tout ça sur un projet.
T'sais, oui, exactement.
Un parti politique, ton engagement envers un parti, c'est santé, c'est éducation, c'est la vision économique, c'est ta vision de la solidarité, jusqu'où il faut aider les gens ou pas, ou jusqu'où l'État doit s'impliquer. C'est beaucoup plus compliqué qu'un seul projet. Mais c'est sûr qu'en campagne, tu veux gagner la journée.
Oui.
Des fois, gagner la journée, ben, tu te tires dans le pied pour les prochaines journées.
Ben, c'est ça. En tout cas, bref, j'aime vraiment pas cette façon de procéder-là. Ceci dit, ben, on salue le courage quand même de Bernard Drainville d'aller contre vent et marée.
Puis aussi que les caquistes, les membres de la CAQ aient un choix.
Oui.
Moi, je trouve ça vraiment correct puis qu'il y ait des débats. Par contre, il faut pas que les débats tombent trop dans le personnel. Pourquoi? Parce qu'après, il va falloir que ces gens-là travaillent ensemble. Hein? Après une course à la chefferie, il y a une réconciliation.
Mm-hmm.
Et si on tombe trop dans l'acrimonieux, dans le personnel, ça rend l'unité par la suite très difficile.
Ouais, je crois pas vraiment à la réconciliation, Bernard, Christine.
Non,
non, pas vraiment.
Okay.
Antonine Iacarini, merci beaucoup pour ce caucus qui est du lundi au jeudi à l'émission On en jase, de 12h05 à 12h30. Dans un instant, à Boulevard 101, à l'émission On en jase, on va avoir Steve Lavoie, député de Beauport-Limoilou. Là, vous dites Steve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, Parti libéral du Canada. Ah oui, le tramway à 13 milliards. Ben oui, on va y poser la question, à savoir si c'était une erreur et pourquoi et comment il a fait cette erreur-là. Et on va jaser également des priorités dans la région de Québec. Et aussi, on va avoir Alicia Despins pour une chronique municipale. Ça brassait hier au municipal conseil de ville. Ça brasse beaucoup autour du tramway, des façons de communiquer. On va vous faire entendre justement un extrait de Bruno Marchand à ce propos. C'est dans un instant l'émission On en jase sur Boulevard 101.